Les colloques du Collège de France.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver donc pour cette dernière journée. Je dis dernière parce que pour moi, ça signe la fin de toute cette série de cours et de séminaires qui ont été donnés au cours de deux années, hein, je dirais, sur la production électrique, sur le stockage d'énergie, sur les scénarios énergétiques français. Donc ça, c'était l'année dernière. Et puis cette année, sur la partie non électrique, hein, de notre consommation, dont j'ai dit l'importance, la biomasse, la mobilité électrique et enfin l'hydrogène. Voilà. Comme vous le savez, tous ces cours et séminaires, et ce colloque, c'est la même chose, seront disponibles donc sur le site du Collège de France. Voilà, au terme de cet effort, je constate que ce fut un travail considérable, passionnant, et j'espère utile pour permettre à chacun d'avoir cette vision globale, critique, mais aussi optimiste, des changements que nous avons à apporter à notre système énergétique. Voilà, donc j'ai souhaité terminer en mettant l'éclairage sur deux aspects déterminants de cette dynamique à l'œuvre aujourd'hui. Et évidemment que je préfère laisser à des experts, plus experts que moi et ou plus directement impliqués sur le terrain. Voilà, donc le premier, c'est ce qui fera l'objet de la séance de l'après-midi, concerne notre capacité, par la recherche, l'innovation, à développer des solutions technologiques pour défossiliser tout un tas de filières, améliorer leur efficacité énergétique, diminuer leur impact environnemental, tout en fournissant à chacun un service de qualité. Alors, c'est déjà une question politique, d'une certaine façon, parce qu'il y a ceux, pour simplifier d'un côté, sorte de énième avatar d'idéologie obscurantiste qui malheureusement occupe le haut du pavé, qui voit là une utopie ou bien une approche à refuser car elle ne serait qu'une opportunité de rebond du capitalisme, ou encore une trajectoire trop lente et trop incertaine. Alors, ils aiment à qualifier cette trajectoire de technosolutionnisme. Ça a l'air d'être le mot à la mode aujourd'hui. Bon, pour moi, c'est pas gênant puisque j'aime bien qu'on m'appelle ainsi. Alors, il y a heureusement tous ceux qui, comme moi au contraire, ont compris ou admettent qu'une grande partie, je ne dis pas toute la solution, une grande partie de la solution se trouve dans la connaissance, toujours plus de connaissances, la recherche fondamentale, technologique, industrielle, dans une forme d'optimisme, un peu, de confiance, pas béate, mais pragmatique, réaliste, dans la capacité de l'homme à trouver par la science des réponses appropriées aux questions complexes auxquelles il est confronté. C'est ce que l'humanité a fait tout au long de son histoire et doit continuer à faire. Je dirais, tentons la science avant de remonter dans les arbres. Alors c'est pour cette raison que j'ai souhaité mettre le projecteur, ce sera cet après-midi, sur de formidables avancées technologiques, plus ou moins matures, ils nous le diront, qui répondent aux enjeux de la transition énergétique et de la protection de l'environnement. Il s'avère que ces travaux sont menés par des entrepreneurs, des entreprises, des start-up françaises. Car, pour ne pas sombrer dans le France bashing habituel, je voudrais rappeler que la France est un pays de chercheurs, d'ingénieurs, d'industriels de talent. On verra donc comment nos invités parviennent à exploiter de façon intelligente et rigoureuse la biomasse et les déchets, comment de nouveaux électrolyseurs pourront produire de l'hydrogène vert avec des rendements inégalés, comment le CO2 peut être valorisé comme source de carbone pour l'industrie ou les transports, enfin, comment il peut devenir possible de recycler certains plastiques. Ça sera cet après-midi. Il y a d'autres enjeux. Certes, l'enjeu technologique est celui que moi-même j'essaye de traiter dans mon laboratoire, comme d'autres. Mais il y a d'autres enjeux. qui sont tout aussi importants. Ils sont notamment politiques, économiques et sociaux. Les crises diverses auxquelles nous avons été et sommes encore confrontés depuis plusieurs années, la crise sanitaire, par exemple, mondiale, de 2020-2021, les guerres au cœur de l'Europe et au Moyen-Orient, la crise énergétique de 2022, aujourd'hui la crise agricole partout en Europe, toutes ces crises nous disent que la crise climatique n'est malheureusement pas la seule à notre agenda. Toute politique énergétique et environnementale, rigoureuse et acceptable, devra trouver le bon équilibre entre objectifs climatiques, croissance verte, développement technologique, mais aussi sécurité d'approvisionnement énergétique, souveraineté technologique, souveraineté alimentaire, et bien sûr aussi justice sociale et gestion des équilibres géopolitiques. Très complexe. En d'autres termes, une politique énergétique, parce que c'est surtout de ça dont j'ai parlé, au fond, n'est pas qu'une politique climatique. Alors, c'est ce matin, on ne va pas pouvoir tout traiter, mais j'ai souhaité qu'on puisse aborder, grâce à des spécialistes de ces questions, des sujets aussi importants que, premièrement, dans le désordre, la politique énergétique européenne, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça existe ? Qu'est-ce que ça sera demain ? Est-il possible de sortir de certains blocages, notamment entre certains pays ? Voilà, c'est ce que nous dira, entre autres, Cécile Maisonneuve. Deuxième point, le marché de l'électricité, dont on a pu constater qu'il était insuffisamment opérationnel et qu'il fallait le réformer. Alors, où en est-on de cette réforme ? Sur quel principe ? Voilà, Jacques Percebois est là pour nous éclairer. Et puis la question de la souveraineté énergétique, qui, moi, me tient à cœur profondément. Si bien évidemment l'Europe est aujourd'hui notre horizon, parce que c'est la seule à pouvoir rivaliser avec les grands ensembles économiques mondiaux et parce que la solidarité énergétique européenne est essentielle, même si elle est imparfaite, il n'en reste pas moins que chaque citoyen attend de son État, qui lui assure une sécurité énergétique qui dépend en partie d'une souveraineté nationale en matière d'énergie. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de souveraineté nationale ou européenne ? Quelles dépendances sont acceptables, parce qu'inéluctables ? Voilà. Et quel est le rôle de l'État ? Jean-Paul Bout est là pour nous éclairer. Voilà. Grand merci à tous les invités pour avoir pris du temps à construire cette journée avec moi, pour vous, chers auditeurs, fidèles, présents et aussi virtuels. Comme vous le savez, ces cours sont filmés et disponibles ensuite. Alors, on va commencer par Kyle Harper, notre premier intervenant. Kyle est professeur d'histoire ancienne à l'Université de l'Oklahoma. Le Collège de France est infiniment heureux de l'avoir en son sein pour l'année 2024, puisqu'il occupe aujourd'hui une chaire annuelle, la chaire Avenir commun durable du Collège de France. Je vous invite en particulier, là aussi disponible, à aller voir sa leçon inaugurale et les cours qu'il a commencés. Voilà, l'histoire a tellement de choses à nous dire et à nous enseigner sur les transitions technologiques, humaines, sociétales. Voilà. Je ne sais plus où il est, Kyle. Kyle est là. Je te laisse la parole pour entrer en matière. Et je l'ai écrit plusieurs fois. Je serai très strict sur le temps de parole. C'est de l'intérêt de tous, y compris de laisser la place à un débat avec la salle dont je sais qu'elle est particulièrement friande de discussion avec les orateurs. Voilà. Kyle, à toi.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.